Putain, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range, range, range.
Il y en a plus. Oh, non, il n'y a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là. Les jours. Oh, purée, ce casque qui marche pas. Mais c'est pas vrai.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la matinale du mardi 20 décembre. La Saint-Théophile aujourd'hui, celui qui n'est jamais là. Pourquoi, vous chercherez. Vivement qu'il trouve la passoire et qu'il arrête de jouer avec sa louche. Voilà, c'est le titre de cette énième matinale. Alors, je voulais juste parler, on vient d'en entendre deux mots dans RFI, sur RFI, et on parlait déjà des agents de sécurité des aéroports qui sont en grève. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas pris l'avion, et là, sur un vol national, simplement, Montpellier-Paris, c'est infernal le nombre de temps que tu peux passer. Alors maintenant, les cartes d'embarquement sont délivrées par des bornes, donc ça va très vite. L'enregistrement des bagages va relativement vite. Mais alors, passer sous les portiques, c'est la galère. C'est la galère. Alors, il te faut enlever la ceinture. Si tu portes une ceinture avec une boucle métallique, tu enlèves ta ceinture, tu enlèves tes chaussures si tu as des boucles métalliques ou des chaussures ferrées. Tout ce qui est métallique, alors je pense à ceux qui ont des piercings un peu partout, ça doit être rigolo, je comprends pas comment ils vont me faire. Il te faut sortir les ordinateurs, tous les appareils électroniques qui sont dans tes sacs, il te faut les sortir, pas les laisser dans les sacs, donc ils te donnent des bacs, tu remplis les bacs, alors... Tu remplis tout, quoi. À force, tu... Alors, heureusement, quand tu ne passes... si tu n'as pas grand-chose, ça va. Mais si les gamins qui ont un ordinateur... Enfin, même pas les gamins, parce qu'il n'y a pas que les gamins. Une PlayStation, n'importe quoi, il faut tout sortir. Tu passes le portique, une fois que tu as passé... Ah non, oula, attends. Encore mieux, tout produit susceptible d'être confondu avec un explosif. Alors que ce soit un liquide, un dentifrice, tout ce qui est pâteux, tout ce qui peut être dans un flacon, doit rentrer dans un petit sachet... aux normes, c'est-à-dire qu'il te donne un sachet plastique que tu dois fermer. C'est-à-dire que si tu ne le fermes pas, si les produits que tu mets à l'intérieur n'arrivent pas à fermer, tu ne peux pas fermer le sachet, le produit qui est récalcitrant, tu le laisses là. Voilà, donc tu ne peux pas l'emporter. Tout ce qui est... Donc tu passes ça sous les rayons X et tu passes sous le portique. Si jamais tu as le malheur de faire un bip, allez, c'est parti pour la fouille. Donc d'abord, passage au détecteur de métaux, puis ensuite la fouille corporelle. Il y a un mec qui passe, qu'il a dû y rester un quart d'heure. Un quart d'heure pour simplement passer ce poste de sécurité. Et je parle d'un vol national. Imagine-toi un vol Paris-New York. Je ris. Allez, bonjour Audrey.
Bonjour Manu.
Bonjour Phil.
Salut Phil.
Et Chloé a changé de look. Hein. Mec, je suis désolé. Alors aujourd'hui, dans ce chou et fadaise, dans cette matinale, un chou et fadaise avec du bruit de feuilles, on verra ce que c'est. C'est vrai que c'est la fin de l'automne, dont les feuilles, il n'y en a plus. Hein, demain, c'est l'hiver. Alors.
Il y a des guirlandes.
Voilà, il y a des guirlandes, le temps est à la... Non, c'était hier la deuxième neige, aujourd'hui c'est une grosse pluie, voilà, qui rince les toits, les gargouilles doivent se régaler. Dans la chemise à rayures, aujourd'hui, les curiosités au musée Fenaille à Rodez, dans la parenthèse littéraire de Sylvie, deuxième séquence, sur Georges Simenon, mais tout de suite, et sans blabla, puisqu'on en reparle vendredi, on va reparler du groupe... Les vendeurs d'enclumes, vendredi, dans cette matinale, donc on en va, oui, mais la nuit.
La vie est moche quand on l'approche d'un peu trop près. Tout le bloche aux gueules des proches se défait. Qu'un détail cloche et tout le cinoche apparaît. La vie est moche quand on l'approche d'un peu trop près. La vie se joue aux quelques coups de poing de dés. La vie s'en fout autant que nous et on le sait. La vie dessous comme un goût que l'on connaît. La vie c'est nous, savez-vous ce qu'on est laid. La vie ça va, ça vient, ça va, on sait pas trop. Se lever là, creux des bras ou sur le dos. De tout cadeau. La vie ça vient, ça va, ça se vaut. Oui, mais c'est la vie, c'est joli quand la nuit vient. Il y a dans son lit un peu d'oubli et de satin. La vie est bête, mais c'est un fait que l'on respire. Nos doigts se prêtent à la gâchette comme à faire jouir. La vie s'apprête, jolie pépette ou vieux satire. La vie est bête, mais c'est un fait que l'on respire. La vie est dure, oui, mais ne dure, et c'est tant mieux. On se rassure à la mesure de ce qu'on peut. Car s'il est sûr que tout est pur hasard et jeu, la vie est dure, oui, mais ne dure, et c'est tant mieux. Mais si le printemps est pareil à l'amour, qu'il finit toujours, qu'il finit, qu'il finit. Tu sais, le printemps, comme la mort aussi, toujours finit, toujours par arriver. Les saules, coule le col de la putain. Quand la mort frôle, y'a des épaules à nos copains. La vie est drôle, chacun son rôle et tout va bien. La vie est con comme une chanson désespérée. Les sanglots longs des violons ne font pleurer que des garçons un peu couillons et mal aimés. La vie est con comme une chanson désespérée. Oui, c'est la vie. C'est joli quand la nuit vient. Il y a dans son lit un peu d'oubli et de satin.
Oui, mais la nuit, les vendeurs d'enclumes, c'est une découverte du printemps de Bourges 2003. Vendredi, on aura dans la matinale Valérian Renaud, le chanteur, eh bien, qui nous parlera de ces vendeurs d'enclumes.
Qui seront en concert ?
Qui seront en concert le 6 janvier à Millau. Ouais, j'ai trouvé.
Théâtre de la Maison du Peuple. Avec...
Au théâtre de la Maison du Peuple avec.
À nouveau ?
Un nouvel anonyme qui sort du puits, c'est ça que tu voulais dire?
C'est
ouais,
ça.
Bien, la transition. Stéphane Châtelard, voilà, qui est le nouveau directeur de la Maison du Peuple. Il vient du côté dans le Var, du côté de Toulon, par là-bas. Et il était très content, paraît-il, monsieur le maire, et il annonçait qu'il était très content de venir sur Millau. Il avait très envie de venir à Millau. Pourquoi? Il doit aimer le McDo. Voilà, c'est bon, on l'a dit. On enchaîne avec Audrey maintenant. Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
Chou et fadaise avec plein d'anonymes, tu sais, des gens dont on ne connaît pas le nom, mais quand même qui font l'histoire. Alors, un premier article dans Les Inrecuptibles, Karim Baila, donc journaliste, nous livre son carnet de route en Syrie. Un reportage où il croise ces fameux anonymes, ces gens, ces personnes, ces civils, je ne sais pas, comme vous voulez, vous dites comme vous voulez. À Beyrouth, c'est ville transit avant son départ pour Damas, il rencontre Zeïd. Zeïd, c'est un rappeur syrien exilé qui ne veut surtout pas prendre de café dans un établissement de la chaîne Starbucks. Starbucks. Je ne sais pas si tu connais Starbucks, Manu.
De nom, je n'y suis pas
allée. Voilà, tu bois plein de boissons chaudes, diverses et variées, du café au machin, au caramel, vanille, enfin bref. Ezeïd ne veut pas prendre de café dans cet établissement parce qu'il dit que cette enseigne de salon de thé à l'américaine finance l'armée israélienne et que ça, ce n'est pas bon pour son pays natal, la Syrie. Le journaliste continue son périple, arrive à Damas, encore un café, mais cette fois-ci avec des narguilés. Il engage la conversation avec un groupe de 10 jeunes à peu près, ingénieurs, comptables ou chômeurs, qui déclarent aux journalistes « Il ne faut pas croire tout ce que l'on dit à la télé. Nous vivons très bien ici. Le monde entier veut notre pays. Le monde entier est contre notre pays. » Et ils se mettent tous à crier « Syrie forever ». Donc à Damas, tout va très bien, madame la marquise. Le journaliste décide donc de quitter la capitale syrienne, direction Rousseir. Checkpoint, barrage militaire, on change d'ambiance, c'est plus Damas. Et deux hommes qu'il croise au détour d'une ruelle lui proposent à ce journaliste, Karim Baila, de l'accompagner dans l'un des QG de l'armée libre de Syrie, donc l'armée qui s'oppose au régime de Bachar el-Assad. Un rendez-vous bref dans la campagne syrienne, subitement interrompu par l'arrivée de l'armée officielle. Le journaliste file alors vers Homs, où il croise un autre anonyme, Rachid. Rachid qui s'inquiète parce que s'ils apprennent le régime officiel que nous parlons à un journaliste, ils nous tueront. Une menace que Karim Baila ne prend pas à la légère. Il nous explique qu'il quitte la ville sur une vision atroce, un corps sur le trottoir, découpé en morceaux. Des passants vont et viennent sans y prêter attention. Encore un anonyme victime de la grande histoire macabre qui se déroule en Syrie. Connaissez-vous Alain Vizier ? Son nom, son visage, Manu,
ben ça non, te dit rien. C'est anonyme.
Alors peut-être que oui, peut-être que non. Parce que pourtant, cet homme d'une cinquantaine d'années dirige depuis 25 ans la communication du FN. Un visage rond, l'air franchouillard, c'est lui qui invite les journalistes autour de la table des petits fours. Dans l'article que lui consacre Guillemette Faure dans Les Inrocks, Jean-Marie Le Pen déclare qu'il a cédé à l'invisier à sa fille, tout comme son garde du corps. Donc c'est un objet désormais au service de la prétendante au trône français. Et dans cet article, il y a un autre nom saisissant qui apparaît, Laurent de Sainte-Afrique. Ah, tu le connais celui-là ?
J'en ai entendu parler.
Voilà, tu en as entendu parler, donc un personnage à particules qui fricote avec le FN, tu en as peut-être entendu parler lors de cet automne-là, quand Robert Bourgui, cet avocat proche de l'ancien président gabonais Omar Bongo, a déclaré que le FN aurait reçu des valises de billets envoyées par le même Omar Bongo à Jean-Marie Le Pen. Oh là là, quand même.
Ouais, mais c'était des frames.
Ah voilà. Et Lorraine Sainte-Afrique, donc, à cette époque-là, confirmait les propos de l'avocat et il entérinait à jamais sa brouille avec les Le Pen parce que ce Lorraine de Sainte-Afrique, il faut savoir qu'il a été conseiller en communication donc du FN et exclu du parti en 1994. Alors, deuxième question, quel lien avec la vilote ? Ah ah !
Est-ce que tu sais ? Tu n'en as pas trouvé, si ?
Ah ben si, j'en ai trouvé. Ah ben si, il est clairement en lien avec ici, la Radio Sainte-Afrique, Lorraine de Sainte-Afrique, même combat, hein, je te jure. Bref, un de ses aïeux, qui s'appelait Louis-Bernard de Sainte-Afrique, il était député de l'Aveyron à la Convention nationale pendant la Révolution française. Voilà, et du coup, son arrière-arrière, je ne sais pas combien, petit-fils, Lorraine, lui, il a d'abord été au service presse du président Valéry Giscard d'Estaing avant de devenir conseiller en communication du FN. Et il faut savoir qu'il est aujourd'hui contributeur au journal en ligne Atlantico. C'est un nouveau journal en ligne, Atlantico. Il écrit des papiers pour ce journal en ligne, des papiers qui ont le plus souvent un lien direct avec le FN. Un autre nom méconnu, un autre destin, un autre Aveyronnais. Dominique Régnier. Ah, mais on a des talents hein, dans l'Aveyron. Hein, ça va peut-être vous rendre le sourire. Il est né à Rodez. Enfin, on verra. Manu, je te regarde. Il est né à Rodez, Dominique Régnier. Et c'est grâce à une brève dans Politis que je me suis intéressée à ce monsieur. Politis qui fait tomber les masques de celui qui, je cite, a son rond de serviette assez dans l'air, où il est venu 28 fois en 2010 expliquer le monde avec pédagogie. France Inter et Le Monde, le journal cette fois-ci, font régulièrement appel à ses services. Bref, Politis nous apprend que ce bon client médiatique dirige la Fondapol, un think tank libéral et pro-UMP. Tu sais ce que c'est un think tank, Manu ? C'est une cuve où il y a des gens qui pensent. En fait, c'est un groupe de réflexion et de propositions. Donc, Fondapol, lui, dirige Fondapol, qui vient de publier d'ailleurs ses 12 propositions pour 2012. Vous pouvez commander l'ouvrage sur le site internet pour la modique somme de 6 euros. Bref, un site que je vous recommande d'aller visiter parce qu'on peut y glaner quelques infos sur cette fondation pour l'innovation politique progressiste européenne. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Et les partenaires médias officiels, ce sont Le Monde et Slate.fr. Quand même. Atlantico, encore et toujours lui, est également cité pour un article plutôt élogieux sur la Fondation. En tout cas, on apprend que Fondapol organise des colloques en veux-tu en voilà, sur Alzheimer, le cancer, en présence de Roselyne Bachelot, s'il vous plaît. Et il y a un colloque qui a particulièrement retenu mon attention. Le colloque « In God we trust ». Autrement dit, faisons confiance à Dieu. Nous faisons confiance à Dieu.
Ah, petit, j'y avais jamais pensé, ni...
Tu vois, alors c'est un échange sur la place de la religion dans l'entreprise. Donc voilà, Fondapol organise tout ça au Collège des Bernardins à Paris en présence de religieux. Je n'ai pas poussé plus loin l'enquête par manque de temps, mais ça donne une petite idée du personnage. Donc c'est Dominique Régnier, un Aveyronnais, directeur de Fondapol, si vous l'entendez parler dans les médias. Voilà quelques infos. À peine né et déjà plongé dans l'anonymat. Accouchement sous X, faut-il le supprimer, s'interroge Politis, alors que deux propositions de loi dans ce sens ont été déposées par l'UMP, là, il y a quelques jours. Alors, pour répondre à ce débat d'idées, deux points de vue. Le premier, celui de Pierre Verdier. Il est avocat et président de la coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines. Il est pour la levée de l'anonymat, tout d'abord dans l'intérêt des mères, qui, explique-t-il, peuvent passer leur vie entière à chercher cet enfant dans l'impossibilité de faire le deuil de ce qui est censé ne pas avoir existé. Pour les enfants, car Pierre Verdier estime qu'ils ont un énorme sentiment d'injustice lorsqu'ils savent que le nom de leurs parents est dans un dossier que l'administration leur refuse. Premier point de vue. Danielle Gaudry, elle, est gynécologue et responsable du planning familial. Elle répond aussi à cette question dans Politis. Pour elle, le système est prévu, et déjà prévu, pour garantir l'équilibre entre le droit d'une femme à ne pas être mère et le droit d'un enfant à connaître ses origines. C'est compliqué, cette question. Elle explique, elle, qu'elle craint que la suppression de l'anonymat conduise à des accouchements sans suivi de grossesse. Des femmes qui auraient peur d'être identifiées, qui du coup n'iraient pas en consultation, accoucheraient, je ne sais pas trop dans quelles conditions. Donc voilà un de ces arguments principaux. Et elle insiste aussi sur la primauté du lien affectif et social, plus important selon elle dans le développement d'un enfant que les liens biologiques du sang, en fait. Un débat donc à lire dans Politis en attendant l'examen final de ces propositions de loi. Ce week-end, des noms connus ont disparu. Césaria Evora, Vaclav Havel, Kim Jong-il. Et Roger aussi. Il n'a pas vendu des millions de disques, il n'a pas fait la révolution, il n'a pas opprimé tout un peuple. Et pourtant, on parle de lui dans Midi Libre, sur la page où des noms et des prénoms sont encadrés et où des familles remercient les gens qui s'associent à leur peine. Fleur naturelle exclusivement, merci. Il n'a pas vendu des millions de disques, il n'a pas fait la révolution, il n'a pas écrasé tout un peuple et pourtant, avec la disparition de ces hommes et de ces femmes simples, anonymes, comme mon voisin Roger, une page se tourne. Une page où sont écrites des histoires que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Il n'a pas vendu des millions de disques, il n'a pas fait la révolution, il n'a pas écrasé tout un peuple, et pourtant.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la main grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant. Il s'en allait pêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours pêchant, toujours pêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creuse à lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
Voilà, vous l'auriez reconnu, la version tête raide de Pauvre Martin de Brassens. Voilà, c'était sur une compile de ses chansons par plusieurs groupes différents. Oiseaux de passage, c'est le titre du CD. On enchaîne avec La chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Le musée Fenaille à Rodez vous propose une exposition temporaire au titre alléchant « Curiosités et merveilles ». Exhumée des réserves du musée, des objets hétéroclites collectés durant le 19e siècle, parfois au bout du monde, s'offrent au regard des visiteurs. Aurélien Pierre, conservateur du musée Fenaille, nous présente cette exposition. Il répond aux questions d'Elsa Gourmand.
L'exposition s'appelle « Curiosités et merveilles ». L'idée, c'était de présenter... Ici au musée, des objets qui sont issus des réserves du musée Fenaille. Donc il faut savoir que le musée Fenaille a plusieurs milliers d'objets conservés, hein, des objets qui sont rentrés dans ses collections depuis les années 1830, précisément depuis 1837, et que ce musée Fenaille est aussi historiquement le musée de la Société des Lettres, donc qui est cette société savante qui aussi est créée dans ces années-là. Et dès l'origine, cette société a pour ambition de créer, si on peut dire, un musée, à vocation déjà presque départementale, mais plutôt un musée à vocation, je dirais, encyclopédique, hein, avec des pièces, des témoignages qui vont venir à la fois de la région, mais aussi du bout du monde. Donc il y a vraiment une espèce de fièvre muséale. Hein. Je veux dire, on est loin de l'époque d'Internet où on avait tout à portée de main ou d'un clic. Et là, on avait l'envie peut-être d'accumuler des richesses, des témoignages divers et variés qui touchaient à la fois la minéralogie, les sciences naturelles, l'archéologie. Enfin, c'est vrai qu'on est au 19e siècle, à une époque où le scientisme, la croyance dans la science bienfaisante, c'est un peu d'actualité. Donc on a énormément de choses qui rentrent comme ça dans ces collections au 19e siècle. Et c'est vrai que dans le musée Fenaille tel qu'il est actuellement, il y a un choix qui a été fait et on raconte une histoire qui est l'histoire du Rouergue, l'histoire de ce territoire, mais il y a beaucoup d'objets bien sûr qui ne sont pas présentés et parfois des objets qui, vus avec notre regard du début du 21e siècle, sont à la fois un petit peu curieux et faisaient aussi office de, je pense, de curiosité à cette époque-là et touchent aussi le domaine du merveilleux. Donc des fois c'est quelques fragments, quelques témoignages, des vestiges qui laissent place quand même à notre imaginaire, nous invitent un petit peu au voyage.
Comment vous les avez choisis, ces objets ?
Alors c'est un choix qui est un petit peu empirique et qui est aussi au contact des collections en réserve. Hein. Et puis après c'est un choix qui se veut aussi un peu personnel, je dirais. C'est aussi le regard qu'on peut porter sur une collection autour de cette thématique-là, pour donner à voir un petit peu ce qu'on peut avoir en réserve, mais vraiment à travers le biais de la curiosité et de la merveille, ou du curieux et du merveilleux. Donc ça va être une sélection très hétéroclite, mais qui garde quand même, dans tous les cas, toujours ce fil conducteur. Donc on va vraiment avoir des objets, et chacun des objets, il y en a près de 80, vont interpeller à la fois notre curiosité ou notre imaginaire, voilà.
Il y a des objets dans ceux qui sont exposés qui vous plaisent particulièrement ou...
Alors j'ai un attachement un peu particulier pour tous les objets qu'on a sélectionnés, bien sûr. Après, il y a toujours des découvertes, c'est-à-dire qu'on sélectionne des fois des objets et on n'a pas automatiquement tous les éléments d'information pour l'appréhender pleinement. Et puis donc on en effectue quelques recherches et là c'est vrai que c'est un peu comme en archéologie, comme on soulevait des couches de sédiments, donc il y a des choses qui apparaissent qui sont parfois surprenantes. On présente par exemple, dans ce qui peut toucher un petit peu le sud d'Aveyron, une pièce qui est un peu amusante, qui est le fragment de l'étrave d'un vaisseau qui s'est échoué à Madagascar en 1893. Et donc suite à ce désastre, il y a une vingtaine de marins qui sont morts noyés, enfin ça fait beaucoup de bruit en France. Et à ce moment-là, il y avait un caporal d'infanterie, Monsieur Joie, originaire de Saint-Rome-de-Tarn, qui était à Madagascar et qui, lors d'un petit moment de loisir, s'est permis de se rendre à l'endroit où il y avait eu lieu le naufrage et a prélevé un fragment de cette étrave de la Viso et qu'il a ensuite ramené en France, en Aveyron, et qu'il a donné à la Société des Lettres, voilà, en 1895. Donc c'est des petits objets comme ça, assez curieux, qui sont rentrés dans les collections, mais qui sont plutôt bien documentés. On a des objets aussi un petit peu ethnographiques, petites statuettes Nkizi qui provient de la République démocratique du Congo et qui a été donnée au musée de la Société par l'abbé Vissek, qui était un abbé missionnaire. Il y a beaucoup d'abbés avéronnais et missionnaires au XIXe siècle. Donc voilà, c'est aussi une très belle petite statuette qu'on a ici au musée, qui est très intéressante puisqu'elle combine à la fois des caractères propres à l'Afrique, mais aussi elle est un petit peu occidentalisée puisque le petit personnage, il porte un petit vêtement à l'européenne. Elle cumule beaucoup de choses assez curieuses, voilà. Un autre témoignage qui est assez intéressant aussi, c'est tout simplement de la terre, voilà, ça peut paraître insignifiant. C'est de la terre qui a été prélevée en 1938 dans un coffre reliquaire qui a été découvert sous l'actuel hôtel de ville à Rodez. Donc ça a été mis à jour par Louis Balsan, donc qui était archéologue et puis ancien conservateur du musée Fenaille. Donc il y a ce coffre reliquaire qui a été découvert lors d'un suivi de chantier, qui était à un niveau qui correspond donc au premier temps de la ville antique de Ségodounom, de Rodez. Donc il découvre un coffre reliquaire, c'est un bloc, un gros bloc massif, avec une cavité à l'intérieur qui était fermée par un couvercle scellé avec du plomb, donc c'est assez curieux. Donc il décide de déceler ce plomb, d'ouvrir ce coffre, en imaginant trouver je ne sais trop quoi, et puis finalement à l'intérieur on a trouvé qu'une petite quantité de terre. Mais en se penchant un petit peu sur le sujet, certains auteurs pensent que cet étrange bloc pourrait être tout simplement un petit peu la pierre de fondation de la cité gallo-romaine de Ségodounom. Donc c'est une pièce voilà qui peut paraître de prime abord un peu insignifiante, mais qui nous ramène vraiment au premier temps de la cité gallo-romaine de Rodez. Voilà.
Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose ?
Bah écoutez, non, ce que j'aurais à rajouter, c'est juste peut-être inviter les auditeurs à venir et puis à prendre beaucoup de plaisir, j'espère, à découvrir tous ces objets qui sont autant chaque fois voilà, d'invitations un peu au voyage, à la découverte, au rêve et qui, je l'espère, pourra un petit peu les interpeller sur à la fois le patrimoine qui nous entoure, mais aussi sur les traces qu'on laisse et qui sont ici conservées au musée.
Calumet modoc de l'Oregon, plaques de shako d'Ukraine, pommeaux de Cannes et autres coiffes à couvre-nuque du Brésil sont à découvrir au musée Fenaille jusqu'au 20 mai 2012.
Voilà, Faire 2012, qu'est-ce que c'est ? Un CD, alors c'est une compile de plusieurs groupes, donc a priori, qui sont aidés par le ministère de la Culture, la SACEM, un tas de gens. Il y a même Ricard S.A. Live Music, je ne sais pas si c'est le pastis. Bref, voilà, plus ils sont quoi ? Il y en a une quinzaine de groupes. Et j'ai choisi dedans une jeune maltaise qui s'appelle Lisa Portelli.
Pâte au ciel.
Les chiens dorment, Lisa Portelli, et finalement on fait pas notre boulot parce que franchement Lisa Portelli elle est déjà connue, donc on aurait dû choisir un autre morceau.
Elle n'est pas déjà ultra connue, je te dis.
Ultra, mais on
entend
parler.
Ah oui, Lisa Portelli, on commence à en entendre parler. Voilà. Donc on fait notre boulot aussi, Manu. Ouais, pourquoi tu te dévalorises comme ça?
On aurait dû en choisir un autre qui lui était pas forcément connu, tu comprends? Ah oh là 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 là. Ouais, bref.
Pas connu de qui, tu vois? Ça veut dire quoi? Il y a bien des gens qui les connaissent, donc ça veut, tu vois, c'est les anonymes, c'est important.
Ouais.
Ouais, ils comptent dans l'histoire les anonymes.
Tu as fait. Ouais, ben ils sont anonymes jusqu'au jour où ils sont connus. Où ils sortent anonymat. Bref, allez, deuxième épisode des aventures de Georges Simenon.
Aujourd'hui, dans sa chronique Parenthèse littéraire, Sylvie Boulard continue son voyage dans l'univers de l'écrivain Georges Simenon.
Je disais que Georges Simenon avait vraiment été connu au moment où il a créé le personnage de Maigret. Alors, il y a une anecdote assez rigolote, parce qu'en fait, c'était aussi quelqu'un qui soignait beaucoup sa réclame, sa publicité. C'est-à-dire, en fait, quand il a sorti, il avait une facilité d'écriture absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qu'il avait participé à un concours avec un journal, c'est-à-dire qu'il s'était fait enfermer dans une cage en verre et les lecteurs devaient lui donner quelques éléments pour l'enquête. Il a écrit son roman en 4 jours, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui avait une facilité extraordinaire. Et donc, quand il a sorti les premiers Maigret, il avait inventé il avait fait une grande soirée dans une grande boîte de Paris, et donc ce qu'il appelait le bal anthropométrique, c'est-à-dire que les gens étaient à l'entrée, devaient donner leur empreinte. Enfin, c'était des inspecteurs de police, des policiers qui faisaient office de groom. Il y avait des prostituées, il y avait des gigolos, enfin, et tout ça pour vendre un peu ces maigrets. Et ça a marché. C'est vraiment vraiment, il a rencontré un succès extraordinaire à partir du moment où il a commencé à publier les Maigret. Et c'est vrai qu'il a toujours été obligé d'y revenir. Il a essayé à un moment de ne plus écrire de romans policiers, mais en fait, il s'est trouvé obligé de le faire parce que pour faire bouillir la marmite, parce que ses autres romans se vendaient beaucoup moins. Que dire encore sur Simenon, si c'était que j'invite tout le monde à un peu les gens à découvrir un peu son œuvre. Il y a énormément de romans, je crois qu'on est à plus de 200 ou 300, et à chaque fois c'est des choses qui se lisent très très vite, mais quand on plonge dedans, on est quand même capté par l'ambiance qui s'en dégage. Bon, c'est l'ambiance de la France aussi de 1940, 1950, 1960, et c'est vrai que c'est toute une atmosphère qu'il arrive à recréer. Et puis surtout, c'est toujours des personnages personnages qui sont rattrapés par un destin, à qui il arrive des choses absolument dramatiques, qui sont confrontés comme ça, qui doivent se poser des questions sur la façon dont ils peuvent continuer leur vie, parce que tout d'un coup, un événement fortuit va complètement mettre à mal la petite mécanique dans laquelle ils vivent. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de ces personnages. Alors, pour finir, peut-être vous dire que, pour ceux qui ont la flemme de lire des romans, je pense qu'il y en a voir, on peut dire aussi que Simenon a été énormément adapté aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Et je crois qu'il y a... Bon, je parlais de Betty, mais il y avait aussi Monsieur Hir qui avait été mis au cinéma avec notamment, comment s'appelle-t-il, Michel Blanc. Il y a Le Train qui était avec Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider. Enfin, énormément de ces aventures qui ont été mises au cinéma et même encore aujourd'hui. Enfin, ça continue. Voilà, donc je crois que c'est vraiment quelqu'un, enfin un écrivain qui paraît très facile, mais ça vaut vraiment le coup d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans son œuvre et de découvrir un petit peu à la fois son style et puis ses personnages.
C'est quoi un côté punk? Tu sais ou pas?
Un côté obscur de la force? Je sais pas du tout, Manu.
C'est une force ou pas une force?
Oh, certainement. C'est notre côté. Pff, j'en sais rien, punk, quoi. C'est quoi punk déjà?
Ah, punk, c'est quoi punk?
Ah, c'est compliqué. Il faut demander à Pat. Pat, si tu nous écoutes.
Pat, allô, Pat. Tu peux nous appeler, s'il te plaît? Bon, bref, voilà mon côté punk. Nouvel album. Alors, le combienième? J'en sais rien. Je l'ai pas forcément numéroté.
Le beaucoup-tième
album de mon côté punk, et c'est Gelma.
Partie de la ville haute, les manifestants se dirigèrent vers la place, le centre de la ville. Leur nombre, leur ordre et leur chambre bien scandés surprirent et effrayèrent les gens du café glacis. C'est sous l'effet de la douleur et de l'humiliation qu'il sortit son revolver et tira un coup en l'air. Le signal était donné, les gendarmes en retrait tirèrent aussi en l'air, nul ne se doutait que par-delà les volontés personnelles, il y avait diffus, mais cependant pressant, le besoin de s'affronter. Ce fut une fuite éperdue, des premiers rangs fuite entravés par les derniers rangs qui ne cessèrent d'avancer. C'est alors que des coups de feu furent tirés des maisons. On n'avait pas relevé ce détail important, que ce furent des civils qui les premiers tirèrent sur la foule de manifestants, de peur de perdre leurs privilèges. L'enquête serrée nous révélerait que malgré la légèreté avec laquelle ils organisèrent leur cortège, les jeunes meneurs eurent du moins la présence d'esprit de ne se munir d'aucune arme. Telle fut la journée du 8 mai, prétexte aux représailles les plus atroces contre une population médusée, inerte et affolée. L'armée était alertée, les mitrailleuses furent placées à chaque coin de rue pendant que le monde entier s'extasiait de joie à la nouvelle de l'armistice. Telle fut la journée du 8 mai 1945 à Guelma.
Mon côté punk, Guelma. Voilà, avant de terminer avec cette passoire, je voulais juste me retourner vers le Midi Libre. On aurait à monter plein de journaux. Et dans le Midi Libre, j'ai la couverture. Alors la couverture, j'ai noté deux choses. Il y a un gros titre, Anne Sinclair, femme de l'année. Et moi, je dis, nous vivons une époque formidable. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Et dans le coin, un truc rigolo, mais c'est plutôt un côté typographique de l'histoire. Corée du Nord, Kim Jong-il, mort du dernier tyran stalinien. Déjà, quand on voit la tronche de son fils, je m'inquiète. En plus, il a l'air assez jeune. Mais il y a un truc, et son fils s'appelle Kim Jong-un. Alors, un vient après le deux. Après parce deux, parce qu'on a l'impression que ça fait deux, tu vois. Il, ça fait deux.
Oui.
Donc, chez eux, ils numérotent à l'envers. Donc, après le 1, il y a 0. Mais après 0, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc, on peut espérer que la prochaine génération, c'est le 0. Et la prochaine d'après, il n'y en aura plus.
C'est
voilà. C'est dans 50 ans, quand même. C'est dans longtemps. Voilà, fin de cette passoire et de cette louche. On est arrivé aujourd'hui par ordre.
Ça veut peut-être dire qu'il déclare la guerre nucléaire en décembre 2012.
Non.
Non, c'est trop tôt. Ça peut être ça.
C'est trop tôt, c'est trop tôt.
Ce sera vraiment le dernier. Mais...
c'est trop tôt, je crois. Allez, par ordre de désapparition dans les morceaux de, la, de cette journée, mon côté punk. Donc, le nouvel album, je ne sais pas, ici c'est marqué dessus, mais je n'ai pas la date. Donc, de sa dernière sortie, la compile Faire 2012 avec Lisa Portelli, qui finalement voilà, est déjà très connue. Donc, du coup, ça n'a pas fonctionné. Pauvre Martin, une version Tête Raide, Oiseau de Passage. Une compile des chansons de Brassens et Les Vendeurs d'Enclume. Vendeur d'Enclume, dont on en saura beaucoup plus vendredi, puisqu'on aura le chanteur en interview. Et pour finir cette journée, ben, on va s'en repasser un autre morceau des Vendeurs d'Enclume pour finir cette émission. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Donc, ça sera
10h10. Après RFI et 17h10, en rediff.
En rediff, on redira ça tout à l'heure. On finit avec les Vendeurs d'Enclume. Ça doit être, les valises doivent être lourdes à porter.
Ouais,
bref,
je vais leur demander s'ils ont pas mal au dos.
Ouais, finir.
Quand je serai fini, je veux être abîmé, détruit, totalement rincé par les courants d'avis qui m'auront amené ici, au port, devant la grande mer. Je veux vieillir à mort et puis finir à terre, si frêle et cacochime, qu'une brise légère me brise l'échine. Je veux finir en ruine. Comme un vieux monument croulant de décadence, m'être cassé les dents à de trop folles dents, ne pas les pleurer. Je veux porter fièrement toutes mes cicatrices, les ravages du temps, de l'amour et du vice, comme autant de médailles, de galons mérités à la sueur de mon front sur le champ de bataille. Je me veux feu de paille et brûler sans compter jusqu'à ma dernière fête. Je veux finir bête, complètement débile, ne plus voir un neurone dans ma tête sénile, et puis que des morveux de jeunes qu'on me dise, que de matière grise, je n'ai que mes cheveux. Je les mêmes mains, à sentir la douleur dans chacun de mes doigts, qui d'avoir trop servi se raidiront enfin. Mais vous quand les raideurs joyeuses d'autrefois, mais je serai de bois sec et mort. en un dernier effort. Sur la dernière marche, je m'étale vaincu, mais heureux de savoir que si je ne vis plus, c'est de ne plus pouvoir. Car tant que je pourrais choisir, je resterai sur le rebord. Je n'aurai pas peur de la mort, non, mais sans doute un peu de mourir. Alors, à l'heure pénultième, si je ne suis pas sourd, bombarde ces tambours dans un grand requiem, achève mes oreilles. Et si je vois encore, j'irai dire au soleil que c'est moi le plus fort. Mon regard dans le sien, pour qu'il baisse les yeux ou qu'il baise les miens, pourvu que dans le feu il ne reste plus rien. Au moment des adieux, je veux finir.
C'était Finir avec les Vendeurs. Non, c'était pas Finir avec les Vendeurs d'Enclume. C'était eux qui voilà, jouaient ce morceau et qui s'appelle les Vendeurs d'Enclume. On va pas en finir avec eux. Vivement qu'ils trouvent la passoire et qu'ils arrêtent avec sa luche. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Audrey. Merci Phil. On se retrouve demain.